Non seulement vous allez voter la journée, mais en plus vous allez dépouiller le soir. Ça sera gentil à vous, merci. Parce que c'est quand même, disons, dépouiller deux fois 700 à 1000 bulletins de vote, alors que d'habitude, par définition, on les dépouille qu'une fois, puisqu'on n'a qu'un vote. C'est quand même un gros cirque dans les bureaux. Donc, si vous pouvez donner un coup de main, ça sera chouette. Voilà, ça c'était le message citoyen. Allons voter et éventuellement allons dépouiller. Après, Marseille est toujours une belle ville culturelle, n'est-ce pas ? Donc nous avons toujours beaucoup de choses au cinéma, beaucoup de choses au théâtre, en particulier au Gyptis quand même, si vous voulez ne pas les rater. C'est la dernière semaine de deux films tout à fait recommandables. D'abord, Soulèvement sur tous les mouvements de contestation des grands projets antipopulaires et antidémocratiques. Donc Soulèvement, c'est un film très intéressant de Thomas Lacoste qui nous explique plein de choses sur les ZAD et sur les contestations populaires des grands projets ambitieux qui riment pas à grand chose pour la population. Et puis d'autre part, le gâteau du président. Le gâteau du président, il n'y a plus que la projection du samedi 21 à 19h30. Et pareil, ne pas rater le gâteau du président parce que c'est pas très optimiste sur la situation du Moyen-Orient. Mais comme de toute façon, la réalité n'est pas très optimiste non plus sur la situation du Moyen-Orient, ben voilà, finalement, c'est très intéressant de voir ça. Oui, le gâteau du président, c'est en Irak et c'est dans l'ancien Irak, on pourrait dire, de Saddam Hussein. Mais vous savez, hélas, il y a quand même, même quand il y a des changements de régime, il y a des choses qui ne changent pas. Donc, la situation sociale très compliquée fait que, malheureusement, ce qu'on voit dans le film reste dans la réalité. À part ça, oui, alors commence aujourd'hui un festival de spectacles vivants qu'on aime bien, auquel on pense et auquel on va tous les ans. Ça s'appelle la Biennale des Écritures du Réel. Dans la Biennale des Écritures du Réel, il y a des spectacles de théâtre, de danse, des rencontres de littérature, des conférences, des projections de cinéma, des scènes partagées entre différents types d'art vivant, justement. Et puis, en particulier, là, cette année, il va y avoir... J'aurai juste le temps de vous en reparler la semaine prochaine, mais enfin, vous pouvez vous bouger avant. Il va y avoir donc au Théâtre de l'Anche, c'est une petite salle, c'est vraiment un lieu qui se prête à ce genre de choses, un spectacle qui s'appelle « À la ligne ». Feuillet d'usine, c'est adapté du texte de Joseph Pontus qu'on a lu ici et qu'on a rediffusé sur la vie assez terrible des travailleurs des conserveries ou des abattoirs, essentiellement dans l'ouest de la France, en Bretagne. Mais le bouquin de Joseph Pontus était vraiment passionnant, hein, il s'appelle « À la ligne », on pourra le rediffuser d'ailleurs un jour. Et puis, le spectacle, il y a eu deux mises en scène essentielles de ce bouquin. Et la mise en scène de Michel André, là, qui passe au Théâtre de l'Anche, est déjà passée, je crois, à la Joliette. Et c'est vraiment bien, c'est vraiment intéressant. Donc, voilà, vous pouvez aller voir ça. Et puis après, dans la Biennale des Écritures du Réel, il y a des tas d'autres spectacles intéressants. Vous trouverez ça, bien sûr, sur Internet. Et l'organisateur, c'est le Théâtre La Cité. Donc, vous pouvez aussi trouver ça sur le site du Théâtre La Cité. Il y aura quoi ? Ah oui, il y aura aussi, à partir de la semaine prochaine, donc on en reparlera, mais vous pouvez aussi commencer à regarder les programmes qui sont parus, le Printemps du film engagé. Le Printemps du film engagé qui se passe dans plein de cinémas de Marseille et qui passe en particulier le 27 mars, un film sur l'affaire Abdallah, un film de Pierre Karl, et aussi d'autres choses sur, à nouveau, la situation au Moyen-Orient. Ah oui, les filles de Marseille, vous savez, toutes panthères, les basketteuses de Marseille. Et puis un autre film qui s'appelle Girls for Tomorrow. Alors là, je ne connais pas bien, mais je trouve que le titre est intéressant pour ceux qui ont envie d'aller se promener jusqu'à Vitrolles. Et d'autres choses à l'Alcazar, des documentaires à la salle, enfin au grand auditorium de l'Alcazar, etc.
Beaucoup au Gyptis aussi.
Oui, bah, ce que j'avais dit, l'affaire Abdallah, c'est au Gyptis. Et puis, il y a aussi, en effet, pas mal de choses. Donc, Printemps du film engagé, bah, ça se trouve aussi sur Internet, en un seul mot, Printemps film engagé, voilà. Allez, on revient à nos littératures de lecture, justement. On a commencé la semaine dernière la lecture d'un roman qui s'appelle « Mille femmes blanches » de Jim Fergus. Et donc, c'est un roman américain qui concerne le Grand Ouest américain, le Grand Ouest, la frontière, comme on disait à l'époque. La frontière donc de colonisation et même, disait-il, de civilisation des grandes plaines américaines par, en effet, les colons arrivés essentiellement d'Europe. Ça se passe donc à la fin du 19e siècle. Et « Mille femmes blanches », ben, on va résumer un petit peu la situation puisqu'on a déjà lu la semaine dernière le début du roman. On va continuer aujourd'hui. Donc, comme on dit, résumé des chapitres précédents, l'histoire est fondée sur des faits historiques et implantée dans un milieu géographique tout à fait irremplaçable. Donc, les faits historiques, c'est la rencontre d'un chef indien, d'un chef Cheyenne, Little Wolf, qui a lieu à Washington avec le président américain Grant. Et c'est la proposition quasi incroyable, en effet, de ce chef indien, Little Wolf, de demander au président américain 1000 femmes blanches en échange de chevaux et de bisons pour favoriser l'intégration du peuple indien et surtout revitaliser les peuples indiens qui commencent à se porter très mal, ben justement, de la colonisation et de l'expropriation de leurs terres. Donc, étant donné que les populations indiennes ont du mal à survivre à l'arrivée des colons, Little Wolf propose donc au président américain qu'une espèce de grand mélange de populations soit fait par cette adoption, entre guillemets, de 1000 femmes blanches par les tribus amérindiennes. Et c'est l'histoire de quelques-unes de ces femmes qui quittent la côte Est ou Chicago pour aller vers les grandes plaines américaines et pour aller s'installer dans les tribus indiennes. Alors en fait, l'histoire avec un grand H, nous dit que malheureusement ce projet n'a pas fonctionné parce qu'il y a bien quelques femmes qui sont arrivées, donc on pourrait dire que c'est l'histoire de celle-là, qui sont arrivées dans une tribu Cheyenne, et l'auteur Jim Fergus imagine bien sûr que c'est la tribu de Little Wolf. Mais après un premier groupe, semble-t-il, d'une cinquantaine de femmes, eh bien, en fait, il n'y en aura pas d'autres parce que les aléas de l'histoire et surtout de la politique, justement, de colonisation font que les colons, enfin, d'une part, les Américains installés sur la côte Est ou à Chicago et d'autre part, les colons ne veulent plus donner de femmes aux Amérindiens. Et puis, vous connaissez la suite, malheureusement. Au contraire, on prendra, entre guillemets, les enfants des tribus amérindiennes pour les élever dans les pensionnats, dans les affreux pensionnats, en tant que prisonniers, pourrait-on dire, de la civilisation, justement, pour leur inculquer la morale et la vie sociale des bons Américains. Contre les tribus indiennes qui finiront parquées dans les réserves au Dakota, au Montana, au Nebraska, etc. Alors, le roman se situe, l'installation, disons, des 1000 femmes blanches, entre guillemets, c'est-à-dire des 50 petites femmes blanches perdues dans les grandes plaines, se fait, d'après le roman, là, à la limite du Montana et du Nebraska, effectivement. Et tout à l'heure, je demanderai à Swan de vous passer une musique Cheyenne. qui est celle des Kiowa, qui sont installés en Oklahoma. Et donc, en effet, les Cheyennes du Nord et les Cheyennes du Sud circulent beaucoup entre le Montana, le Nebraska, l'Oklahoma. Et ils continuent à mener des vies nomades, comme la tradition le veut. Mais très souvent, ils commencent à être massacrés par... Enfin, disons, il commence, ça fait déjà un moment que ça dure. Mais ça dure pendant toute la fin du 19e siècle et même le début du 20e. Ils sont massacrés par l'armée américaine qui protège les colons, les chercheurs d'or, les aventuriers qui vont vers l'ouest et qui construisent les chemins de fer. Et qui, comme on disait aussi dans Lucky Luke, vous savez si vous avez lu ça quand vous étiez petit, qui pose des barbelés dans la prairie, puisque l'idée des colons, c'est bien sûr de délimiter les terres, de les partager entre propriétaires, alors que dans la tradition amérindienne, les terres étaient évidemment un bien collectif qui était partagé, même si les tribus amérindiennes avaient quand même la détestable habitude de se faire des guerres régulièrement à propos de vols de chevaux, de vols de tribus d'une à l'autre et de raids pratiqués entre les tribus. Donc, les guerres tribales, disons, c'est pas nouveau pour les Amérindiens, mais ce qui est nouveau, c'est la violence avec laquelle, en effet, l'armée américaine, dans certains cas, va s'attaquer à eux, et vraiment dans un but de destruction de cette civilisation amérindienne et même de destruction de la population, puisque, vous le savez sûrement, dans certains épisodes, comme Little Big Horn, qui a été popularisé par le film Little Big Man, dans certaines occasions, donc on détruit, enfin l'armée américaine, la fameuse cavalerie, vous savez, détruit des villages en les prenant par surprise, met le feu aux villages et massacre la population, y compris bien sûr les femmes, les enfants qui se trouvent là et qui sont en train de faire la cuisine ou de vaquer à leurs occupations quotidiennes. Donc, un roman fondé sur des faits historiques, mais un roman véritable, puisqu'il s'agit pour Jim Fergus de reconstruire une fiction. Et cette fiction, elle repose beaucoup sur des descriptions des lieux et sur les portraits des femmes qui sont parties. Et les portraits des personnes, des tribus amérindiennes qui les accueillent. Donc, les personnages que nous avons déjà rencontrés la dernière fois, c'est May Dodd. May Dodd, c'est, on pourrait dire, l'héroïne principale, l'héroïne centrale du roman, parce qu'elle rédige des carnets. Et ce sont les carnets de May Dodd qui, d'après l'auteur Jim Fergus, sont justement le fil directeur du roman. Carnets qui alternent avec des lettres, en fait non envoyées, restées insérées dans les carnets. Donc carnets et lettres écrites par May Dodd, soit disons en tant que journal intime, soit en tant que lettre à sa famille. Et puis, il y a d'autres femmes qui sont aussi des, entre guillemets, sacrés personnages. Il y a par exemple l'ornithologue Helen Flight, qui s'intéresse, comme son nom l'indique, aux oiseaux, enfin du moins à ceux qui volent. Et puis, il y a le muletier ou la muletière, Jimmy, qui est une femme qui se fait passer pour un homme pour pouvoir intégrer justement des groupes d'aventuriers, pourrait-on dire, qui vont vers l'ouest et à l'intérieur desquels, bien sûr, les femmes sont tout à fait proscrites. Et ce roman est en même temps, on l'a déjà vu et on va continuer à le voir, une dénonciation du racisme, du sexisme, des inégalités sociales, de la réprobation sociale à laquelle les femmes sont souvent confrontées si elles échappent ou essayent d'échapper au modèle, et la dénonciation, en effet, d'un modèle social qui repose sur un christianisme de façade, mais très brutal, et un système social donc, qui, évidemment, écrase les faibles au profit des forts. Ça, rien n'a changé de ce côté-là. Donc, une dénonciation d'une société qui se présente donc à nous à la fin du XIXe siècle, mais finalement n'a pas beaucoup changé dans nos périodes. Voilà. Alors, on avait vu jusqu'à là le départ de May Dodd, la façon dont elle quitte Chicago, puisqu'elle était, elle, enfermée dans un asile de fous. Elle avait été enfermée parce que tout simplement son comportement ne convenait pas à sa famille. Il y en a d'autres autour d'elle qui sont un petit peu des proscrites de la société, donc ce que je vous disais tout à l'heure, le portrait d'un certain nombre de femmes. On a vu donc comment elle quitte Chicago et on va les voir arriver maintenant, s'installer après avoir connu le transport en train, en chariot, après des arrêts dans des camps militaires des Grandes Plaines, puisque à l'époque il n'y a pas encore vraiment beaucoup d'installations civiles. Elles vont quitter le dernier camp et rencontrer finalement la tribu indienne dans laquelle elles vont s'installer. C'est ce que May Dodd va appeler « ma vie de squaw ». Alors, pour parler de sa vie de squaw, en effet, on va commencer par la façon dont elle quitte le dernier camp militaire et arrive dans le village Cheyenne auquel elle a été promise. Elle quitte donc Camp Robinson et elle se dirige ou elle est dirigée avec un certain nombre d'autres femmes vers le village du grand chef Little Wolf. C'est donc une tribu de Cheyenne et elle va se diriger vers ce village avec Ellen Flight, dont on a déjà parlé, avec une jeune femme d'origine allemande qu'on appelle Gretchen, avec d'autres femmes donc, qu'on va retrouver au fur et à mesure des pages. Et alors, à la page 116, je vais passer le bouquin à Françoise. Elle va nous donner ses premières impressions sur la tribu où elle arrive et les Indiens qu'elle rencontre. Les Cheyennes qu'elle rencontre, excusez-moi.
6 mai 1875. Seigneur Dieu, nous les avons vus aujourd'hui, notre peuple adoptif. Une escouade est venue nous examiner comme on le ferait d'un lot de marchandises, ce que de fait nous sommes précisément. Ils m'ont littéralement coupé le souffle. J'ai réussi à distinguer 53 individus, car autant essayer de compter les grains d'une poignée de sable jetée au vent, tous des hommes, chevauchant des montures dont ils semblaient le prolongement naturel. Ils ont fait irruption comme les membres d'un seul corps, un diable de poussière galopant et tourbillonnant. Les gardes, alertés, ont aussitôt braqué leurs armes sur eux, tout autour de nos tentes, avant de comprendre clairement que les Indiens étaient seulement venus inspecter notre contingent. Je suis bien soulagée de noter qu'ils ne ressemblent en rien aux misérables épaves que nous avons aperçues près des forts. C'est au contraire une race d'hommes robustes et minces, au visage basané, brun comme des châtaignes, à l'ossature fine nouée de muscles vigoureux. Ils paraissent dotés d'une agilité proprement féline, avec une vraie noblesse d'attitude. Ma première impression est que ces hommes sont plus proches du règne animal que nous autres caucasiens. Ces propos n'ont rien de dévalorisant. Je veux seulement dire qu'ils ont une apparence plus naturelle que la nôtre, parfaitement en harmonie avec les éléments. Je les avais imaginés de quelque façon plus grands, plus massifs, ainsi que les dépeignent les portraits dans les périodiques, très loin de ces créatures élancées presque féeriques. Ce qui ne veut pas dire qu'ils ne sont pas impressionnants. Le visage peint de mystérieux motifs, un grand nombre de nos visiteurs étaient vêtus de jambières et de tuniques de cuir resplendissantes, ornées de toutes sortes de parures fantastiques. Certains avaient les jambes et le torse nus, parcourus de curieuses peintures. D'autres, armés de lances décorées de couleurs vives, arboraient des plumes, parfois une coiffe entière. Leurs cheveux tressés étaient embellis de perles et de pièces d'argent frappées. Ils portaient des colliers d'os et de dents d'animaux, mais aussi des boutons de cuivre et des clochettes d'argent, de sorte que leur magnifique apparition était accompagnée d'un tintinnabule mélodieux qui ne fit qu'ajouter au sentiment général d'irréalité. Excellents cavaliers, ils menaient leurs rapides poneys avec une extrême précision. Les chevaux eux-mêmes étaient ornés de motifs spectaculaires, leurs crins et leurs queues décorés de plumes et de perles, de bandes de fourrure, de fils de cuivre et de laiton, de boutons et de pièces. Certains hommes de la troupe n'étaient revêtus en tout et pour tout que d'un pagne, simple morceau d'étoffe qui laisse une part réduite à l'imagination et devant lequel certaines de nos jeunes femmes se sont détournées par pudeur. Pas moi, n'ayant jamais été d'une pudeur immodérée. Je dois reconnaître, parmi les différentes impressions, souvent contradictoires, dont j'ai été l'objet alors que je découvrais ce tourbillon, avoir ressenti une étrange et terrifiante jubilation. Fier et bien de sa personne, le chef manifeste de la délégation Cheyenne se mit à dialoguer rapidement par signe avec le sergent en faction. On nous a conseillé d'apprendre dès que possible à communiquer par gestes et des imprimés rédigés par le lieutenant W.B. Clark, décrivant certains de ces des plus usuels, ont été distribués parmi nous. Bourque, rompu à ce langage, nous en a déjà appris les rudiments. Nous nous sommes même essayés à traduire ainsi un passage de Roméo et Juliette, non sans quelques succès, dois-je ajouter, et de nombreux éclats de rire. Une activité commune qui me paraît d'autant plus appréciable que le destin se resserre autour de nous. J'ai entendu, à l'occasion, l'un ou l'autre de ces Indiens qui traînent autour des forts ou ceux qui servent d'éclaireurs à l'armée, et je ne vois pas très bien comment je serai un jour capable de parler leur langue. Elle me paraît très primitive, gutturale et criante, d'évidence dépourvue de nos familières racines latines. Autant essayer d'apprendre le langage des coyotes ou des grues.
Donc là, la proximité animale, n'est-ce pas, la proximité de la nature, c'est ce qu'on avait déjà vu dans certains chapitres précédents. C'est ce qui frappe notre jeune femme, May Dodd, qui n'avait pratiquement jamais quitté Chicago et qui découvre, on l'avait déjà vu découvrir les grandes plaines dans les chapitres précédents, comme on dit, mais elle découvre là, en effet, la nature... des Amérindiens qui, précisément, c'est ce qu'elle souligne, sont eux-mêmes proches de la nature. Et c'est assez amusant, bien sûr. C'est Jim Fergus qui met ses pensées dans son esprit. Mais c'est tout de même assez amusant de considérer comme notre jeune femme civilisée... découvre en effet des populations plus proches de la nature. Alors, après la découverte des Indiens qui rendent visite au camp, ça y est, c'est le grand départ. Et ce sont les femmes qui vont s'installer précisément dans le village indien. Je vous lis. 4 jours ont passé. Je n'ai pas eu le temps d'écrire, je suis épuisée, étourdie par toute la nouveauté, par tout le manque de sommeil, la promiscuité, les bruits qui m'entourent sans arrêt. Pour commencer, je trouve totalement étonnant de devoir partager une tente, enfin un tipi, avec, en sus de mon futur mari, ses 2 épouses, une vieille bique qui garde la maison, et une jeune femme, et un garçonnet, et un bébé. Oui, voilà, nous sommes pratiquement une dizaine dans ce wigwam. On peut à juste titre se demander comment entretenir des relations conjugales dans ces conditions. Enfin bon, nous n'avons pas commencé. Nous n'avons d'intimité, pour ainsi dire, que dans la mesure où nous ne nous regardons jamais. Nous parlons encore moins. Et j'en ressens une bien singulière impression, celle d'être invisible. Je saurais difficilement décrire les corps des uns des autres, des unes des autres personnes qui sont pourtant si proches de moi. C'est la 2e femme du chef qui s'occupe de moi, une jolie fille, pas beaucoup plus âgée que moi, et qui s'appelle Feather on Head, plume sur la tête. Ben oui, je serai donc la troisième femme de Little Wolf, puisqu'il a déjà deux épouses. La doyenne tient d'une façon générale plutôt un rôle de maîtresse de maison. Elle fait la cuisine, le ménage, et en même temps, là, pour l'instant, elle m'ignore. Il faut dire que son nom indien, c'est la traduction de « quiet one », c'est-à-dire la tranquille, la silencieuse. Donc, finalement, c'est déjà dans son rôle amérindien qu'elle n'ouvre pas la bouche. Alors, avec moi, évidemment, ça ne va pas s'arranger. Tout notre contingent a été mis à contribution dans la vie du camp. Pour l'instant, nous nous acquittons de tâches tout à fait quotidiennes, à la manière d'enfants instruits par nos mamans indiennes, pour être plus proches des réalités. Nous avions cru que notre rôle consisterait à enseigner aux sauvages les manières du monde civilisé. Eh bien non, pas du tout, c'est plutôt le contraire. Nous allons, nous, recevoir un enseignement pour devenir des sauvages. Les dames Cheyennes nous font profiter largement d'une formation aux plus viles corvées. Nous partons chercher l'eau, nous ramassons du petit bois et nous essayons de cultiver, enfin du moins d'arracher les racines qui ont été cultivées dans les maigres champs. Mon Dieu, quel bagne! Je ne sais pas encore comment ça va se passer, mais c'est vraiment pas réjouissant. Le campement est vaste. Nous travaillons toutes dures et nous tombons de fatigue le soir, ce qui explique que j'avais jusqu'à là délaissé mon carnet. De leur côté, ces messieurs sauvages donnent l'impression de passer un temps démesuré à paresser dans leur tipi, à fumer et à palabrer entre eux. Ce qui me pousse à croire que nos cultures, finalement, ne sont pas si différentes. Les femmes font tout le travail pendant que les hommes bavassent. Bon, ça, évidemment, c'est une petite, un petit insert sans doute dû à M. Fergus, mais on peut s'imaginer que c'était aussi ce que pensaient les femmes de façon générale dans la société de l'époque. Alors voilà, May Dodd est dans son village et elle va s'insérer peu à peu dans son rôle. Le prochain événement, ça sera le mariage. Puisqu'il est prévu par la délégation, qui comprend un prêtre, qu'il existe une véritable cérémonie de mariage, amérindienne bien sûr, mais aussi chrétienne. Et voilà, j'oublie une heureuse surprise. Mes co-épouses ont confectionné à mon intention la plus belle robe de mariée qu'il m'ait été donné de contempler. Elle est faite de peau d'antilope, la plus douce que l'on puisse imaginer, cousue de fils de tendons, délicatement brodée, pavée de perles, de piquants de porc-épic, éteinte de très jolis motifs, des motifs de différentes couleurs, extraites de racines. Et j'ai été véritablement sidérée et très touchée en même temps lorsqu'elles me l'ont offerte. Non seulement cette robe représente certainement des dizaines d'heures de travail, un travail vraiment fastidieux, mais elle semble aussi indiquer que je suis maintenant acceptée au sein de la famille et de la façon la plus gracieuse. Il est de coutume, j'ai cru comprendre, que la famille de la mariée s'occupe de la robe. Et bien sûr, comme je viens d'arriver ici, ce sont les femmes de la tribu, et donc pour moi les femmes de la famille du chef, qui ont pris sur elles de nous habiller, et en l'occurrence de m'habiller très magnifiquement pour l'occasion. Chacune de mes camarades a reçu sa robe de mariée, offerte par sa famille, par ses sœurs, par la mère du promis éventuellement. Alors nous obéissons peut-être à un parti pris, mais moi j'ai vraiment trouvé la mienne la plus belle, la plus joliment décorée. Et puisque je dois épouser le chef, on aura prêté la plus grande attention à la confection de la robe, bien sûr. Je me réjouis, par contre, que mon fiancé s'habille sobrement de vêtements traditionnels. Il y a ici des Amérindiens qui, trouvant quelques attributs d'hommes blancs dans les bazars ou à l'issue de rapines, portent des attifages un peu bizarres. Mais lui, non. mon mari, enfin mon futur mari, a pour seul attribut d'homme blanc la grande médaille d'argent montée sur une chaîne qui lui pend autour de son cou et qui lui a été offerte par le président Grant. Alors voilà, c'est le mariage. De petits banquets, pour ainsi dire, offerts dans chaque loge du camp, dans chaque tente. Et puis, à chacun de ces banquets, mais on peut changer d'établissement de l'un à l'autre, la nourriture est abondante et très délicieuse. Chez moi, Quiet One, la première épouse, réputée pour ses talents de cuisinière, s'est surpassée pour l'occasion. Elle a fait griller les côtes les plus tendres, des bisons, les foies, des bisons, et mis leur langue à bouillir pour faire dans une marmite, mijoter un ragoût de viande aux navets. Les navets, ils les appellent en français « pommes blanches ». Et dans d'autres marmites, on sert d'autres bouillons, d'autres racines, d'autres légumes verts, dont je ne connais pas les noms, mais qui ont des goûts délicats. Et on peut ainsi constituer des assiettes très variées, très bien présentées et surtout au goût délicieux. Alors voilà, j'attends la suite. Nous allons attendre la suite avec Medod et en particulier nous allons attendre la suite avec la musique que je vous ai choisie une fois de plus parmi les chants sacrés des Indiens, ou enfin, des Amérindiens, parmi les chants sacrés donc des Amérindiens des tribunes de l'Ouest, ici des chansons ou des chants des Indiens Kiowa, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui sont nomades, enfin qui étaient nomades et maintenant dans les réserves, entre le Nebraska et l'Oklahoma. Donc allons-y, en fait, des chants de guerre, d'abord lents, puis rythmés ou plus rapides. Il y en a pour 3-4 minutes. Allons-y, merci Swan.
Yeah.
Voilà, donc quelques chants sacrés des Cheyennes. Et ça nous fait imaginer, ou ça nous laisse imaginer finalement, que c'était le type de musique que Maydod pouvait entendre au moment de sa cérémonie de mariage, puisque c'est ce qui va suivre dans le récit, c'est ce que Françoise va nous lire. Il y a donc une cérémonie à la fois amérindienne et chrétienne, et puis une fête qui, elle, bien sûr, est amérindienne et au cours de laquelle il y aura chants, danses, etc. Donc, on peut imaginer cette musique et ces voix toujours assez rythmées et soutenues par des tambours qui permet bien sûr de danser lorsque l'occasion s'en présente. Alors, revenons à la vie de la tribu et au rôle en particulier du mari de Maydod, Little Wolf.
Il semble que ce soit le premier devoir de mon mari. Quelle curieuse impression j'ai à écrire ceci de mon mari Little Wolf, en tant que chef de tribu, de prendre soin des plus pauvres. Plusieurs femmes ont amené avec elles des enfants de différents âges qui, assis sans rien dire au fond de la tente, ont pris la nourriture que les mères faisaient passer. Après avoir mangé, les plus petits, repus, se sont endormis sur les fourrures et les hommes, partageant un calumet, ont entrepris de conter des histoires dont je ne compris rien, bien sûr, mais que les autres enfants, captivés, écoutaient avec attention. Peut-être était-ce dû à la nourriture, à la chaleur dans la tente ou simplement au doux murmure des voix d'hommes, j'avoue que j'ai depuis commencé à trouver leur langue moins désagréable. Elle en a un rythme, une cadence bien à elle qui, tout en restant primitif, ne choque plus mes oreilles. Mais je commençais à sombrer dans une sorte de transe, un état proche du sommeil, sans que je sois endormie, comme si je flottais dans un rêve sous l'emprise de quelque drogue. Puis, suivant un genre de signal tacite, tout le monde a peu à peu quitté les tipis pour se rassembler dans l'espace communautaire autour duquel, stratégiquement, les tentes sont rassemblées. L'équivalent, je dirais, de nos squares municipaux, sauf que la forme en est ici ronde. Tout est d'ailleurs rond dans ce monde nouveau. Les musiciens, il faut prendre le terme pour ce qu'il est, il ne s'agit pas du Chicago Philharmonic Orchestra. Les chanteurs et les danseurs se sont installés à leur tour. Les femmes blanches ont composé de petits groupes pour comparer leurs différentes robes de mariée, s'exclamer devant leurs visages peints et leurs incroyables mises. On avait donné à mon amie Martha les traits d'un blaireau. La ressemblance était frappante. À la tête noire, parcourue d'un trait blanc, du front jusqu'au bout du nez. Je ne sais pourquoi, mais les sauvages trouvent toujours des significations à tout. Pour ma part, on m'avait enduit la moitié du visage de noir avec des constellations d'étoiles le long de la joue et la lune pleine sur le front, tandis que l'autre côté, tout blanc, était orné d'une rivière bleue. « Tu es le jour avec la nuit », lança Martha d'une voix curieuse, émerveillée. Elle semblait, elle aussi, sous l'influence d'un narcotique. « Tu es le ciel et la terre ». « Oui ». Et nous sommes deux renards, dit Suzanne Kelly, enthousiaste. Nos rouquines irlandaises n'étaient pas moins jumelles avec les vraies têtes de renard dont elles venaient d'être coiffées, et les queues assorties attachées à l'arrière. La ressemblance ici aussi était parfaite, et compte tenu du caractère si rusé des deux sœurs, c'était une vraie idée de génie de la part des sauvages. La musique a enfin pu commencer. Un orchestre complet de sauvages, flûte, tambour, calebasse, une symphonie primitive, certes aux harmonies grossières, mais indéniablement douée d'une grande puissance rythmique. Les voix ont alors entonné leur refrain, et ce fut le chœur le plus mystérieux que j'ai jamais entendu. Le contrechant aigu des femmes planait au-dessus des basses masculines, suivant un rythme répétitif semblable aux ondulations d'une eau régulièrement troublée. J'en avais des frissons le long de l'échine, tandis que certaines de nos camarades, frappées par l'inquiétante étrangeté de ces sonorités, se sont évanouies si profondément qu'il fallut les ranimer près de l'immense feu de joie allumé au centre du square, dont les flamèches et les étincelles partaient dans le ciel nocturne effleurer les dieux. Je peux t'assurer, ma sœur, que même notre asile d'aliénés, un jour de déchaînement, n'aurait jamais suffi à nous préparer à un tel spectacle. Si nous avons cru de notre côté être parés des plus beaux costumes et des plus belles peintures, nos hommes étaient habillés et grimés de manière plus fantastique encore. Il nous fut difficile d'en reconnaître certains, et nombre de nos amis durent croire sur parole que leur promis venait réellement de prendre place près d'elles. J'ai quant à moi retrouvé sans peine mon chef Little Wolf, coiffé de cornes de bison, de plumes noires de corbeau tout autour de sa tête, elle-même cernée d'une rangée de plumes d'aigle qui couraient le long de son dos comme deux grandes ailes. Il avait revêtu d'impeccables mocassins neufs, une fine tunique de peau de biche artistiquement décorée, je m'en rends compte maintenant, avec des cheveux humains. Je ne vois pas sinon ce que cela aurait pu être. Il portait sur les épaules une cape de bison teinte en rouge, sur laquelle étaient imprimés toutes sortes de motifs complexes. Enfin, il tenait d'une main une crécelle rouge qu'il faisait teinter en rythme avec l'orchestre. Et dans l'autre, une lance à l'extrémité ornée de fourrure. C'était l'image de l'Indien dans toute sa splendeur, et dans l'état second où je me trouvais, je fus empli d'une étrange fierté de me tenir à ses côtés. Après tout, n'est-ce pas ce que l'épouse doit ressentir un jour de, le jour, au jour de son mariage ? Par-dessus la musique, tandis que les danseurs poursuivaient leur ballet derrière nous, le révérend Art commença à réciter le Saint-Sacrement de l'Union chrétienne. Quoi qu'on puisse dire de cet homme, il possède une voix sonore et autoritaire qui réussit à couvrir la musique et les chants. « Chers amis, nous sommes ici assemblés en présence de Dieu devant cette assistance pour unir ces hommes et ces femmes par les liens sacrés du mariage. » À la fin de chaque phrase, il répétait en Cheyenne. « Aucun homme ne pourra maintenant séparer ce que Dieu vient ici de réunir. » Tous vous, les hommes et femmes qui ont consenti à sacrer votre union en présence de Dieu et de cette assemblée, qui ont fait les uns et les autres vœux de fidélité et qui avez joint vos mains, je vous déclare mari et femme au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ainsi fut fait. Un nouveau silence tout empreint de stupeur s'abattit sur le groupe de femmes, chacune méditant en son fort intérieur la portée profonde de l'événement. Apparemment moins impressionnés qu'elles par leurs nouveaux liens conjugaux, les maris repartirent se fondre dans l'ombre auprès des danseurs. Entre-temps, les épouses s'étaient rassemblées par petits groupes, quelque peu hébétées, pour se féliciter mutuellement de nos jeunes épousailles ou s'apitoyer de concert.
Voilà, donc la cérémonie officielle a eu lieu et maintenant la fête continue. Naturellement, nous hésitions toutes timidement à entrer dans la danse. Mais l'une d'elles, vous vous souvenez, notre bonne Fémie, comme toujours courageuse, elle fut la première à oser. « Je vais leur montrer ce que se fait faire une vraie Ashanti », lança-t-elle d'une voix sonore. « C'est ce que ma mère m'a appris autrefois. » Les danseurs Cheyennes se sont interrompus un instant pour observer la nouvelle venue, hardie et résolue, quand elle vint prendre place parmi eux. Et nous étions fiers, très fiers de Fémie, qui, dans un style bien différent du leur, parce qu'elle est une danseuse hors pair, est entrée dans la danse d'un pas souple et gracieux. Ses longues jambes semblaient parfois fuser de sa robe, tandis qu'elle sautillait et virevoltait en cadence, en prenant soin toutefois de respecter les figures imposées par la vigilante jagwoman, peu encline à accepter de trop vives variations. Un murmure collectif d'approbation s'éleva et nous fûmes invités à faire la même chose qu'elle. Nous la regardions et peu à peu, nous sommes entrés dans la danse avec cette grande liberté et cette frénésie redoublée que ressentaient aussi les danseurs autour de nous. Ainsi, l'une après l'autre, agrippées à des souvenirs précieux dans nos têtes, nous avons dansé, oui, et personne ne nous aurait empêché de sombrer dans ces abysses de souvenirs et ces abysses de réflexion du futur qui s'ouvraient devant nous. Nous avons pris part à la danse. Nous avons peut-être offert un drôle de spectacle à tourbillonner ainsi follement sous la lune pleine. Ce n'était pas valses et polkas, ni même gigues, mais c'était des danses bien envoûtantes. Et les pas que nous faisions se fondaient tous dans une même danse, toujours plus rapidement, dans une frénésie de couleurs, de sons et de mouvements. Bientôt, tous les danseurs ressemblèrent aux oiseaux le jour de la parade, avec, pour les hommes, ses plumes gonflées ou lissées. Les hommes, oui, se pavanaient comme des coqs, et les femmes étaient là pour tourner autour d'eux. La musique, quant à elle, reproduisait comme les grognements réguliers ou tambourinants des grands tétras de la prairie ou des autres oiseaux des plaines. Nous battions ainsi le rythme de notre terre, nous battions le rythme avec nos battements de cœur, et sans doute, derrière cela, le tonnerre, le vent, la pluie. C'était la danse et la cadence du monde. Les dieux au-dessus de nos têtes devaient se sentir fiers de leur création. Nous avons ainsi empli l'air de la nuit, de la musique et des chants qui volèrent avec la brise dans les plaines alentours. De sorte que peut-être les animaux des collines s'étaient rassemblés pour nous écouter. Les coyotes et les loups ont quelquefois répondu à nos plaintes et des silhouettes d'ours ou d'antilopes sont quelquefois apparues sur les reflets des feux. Les enfants aussi regardaient tout cela, les vieux observaient la scène et chacun semblait séduit par ce qui se passait. Nous avons dansé sous le regard du peuple et les yeux des animaux. Et puis chacun est rentré chez soi. Eh oui, un peu d'intimité. Espérant que j'allais bien m'acclimater à mon nouveau foyer, je me suis rendu compte qu'on m'avait emmené dans une tente merveilleuse, une tente de mariage. Eh oui, au lieu de la tente avec la promiscuité familiale dont je vous ai fait part tout à l'heure, c'était une tente juste pour mon mari et moi. Mon mari chaussé de mocassins, qui continuait à danser devant moi et qui, à un moment, trouva tout de même l'audace de me caresser, de m'inviter à m'étendre. Et voilà, c'était mon mari, un être humain doué d'une conscience distincte et un élément de la nature en même temps. Nous étions là, oui, nous étions là comme des humains et comme des éléments de la nature. L'immuable appel du désir de Little Wolf, paradant dans la danse, puis paradant auprès de moi, c'est ce qui m'a convaincue que j'étais devenue l'épouse de Little Wolf. Il avait continué à danser, il s'était positionné derrière moi, il avait foulé le sol, puis la couche de ses mocassins si doux. Et puis ensuite, bien, je ne vous raconte pas la suite, bien sûr, tout le monde la connaît. Alors, c'est le mariage, semble-t-il, tout se passe bien pour May Dodd. Et de même qu'on lui a consacré une tente, je ne sais pas comment on doit dire, d'intimité, oui, c'est ça, pour la consommation du mariage, eh bien, son mari, Little Wolf, va l'inviter à ce qu'elle a appelé, elle, un genre de voyage de noces. C'est-à-dire que dans le jour qui suit, semble-t-il, Little Wolf l'invite à quitter la tribu pour un voyage en solitaire dans la nature qui entoure le camp. Mon mari, quelle étrange impression d'écrire ces mots, mon mari Little Wolf s'est rendu avec son cheval à notre loge de jeunes époux en tenant un cheval pour moi, également sellé. Et il m'a invité à monter et à partager sa chevauchée. À l'aide de signes, Little Wolf m'a fait comprendre de rassembler quelques affaires puisque nous allions partir. Son visage brun semblait moins austère qu'à l'habitude. C'était une véritable invitation au voyage. Le voyage de noces, sans doute, me suis-je demandé en riant. Et bien sûr, s'il ne comprenait pas... Il a bien senti que j'étais très heureuse de cette situation. Il m'avait apporté, d'ailleurs, des cadeaux de la famille jusqu'à la loge de mariage. Une sacoche, des affaires de toilette, un certain nombre d'objets qui me seraient maintenant personnels. Et j'ai donc trouvé dans ces cadeaux ma parure de femme Cheyenne, non seulement la robe qu'on m'avait donnée, mais également d'autres vêtements en peau de cerf, ornés de perles, et des vêtements toujours aussi souples, avec une paire de jambières assorties, des jambières qu'on attache au-dessous du genou, non, qu'on attache au-dessus du genou, mais qui couvrent jusqu'aux pieds. La robe, les robes, elles sont faites de peau, toujours très douces, décorées simplement, mais avec goût, avec des perles, des boutons de cuivre, des éléments naturels. Et c'est vraiment un plaisir de les revêtir et d'avoir ainsi une nouvelle garde-robe. C'est d'ailleurs ce que j'adopterai désormais. Certaines de mes camarades ont continué à porter leurs vêtements occidentaux, mais pas moi. Je suis bien trop heureuse d'avoir mes vêtements de femme indienne. Le village rapetissait derrière nous et je me retournais pour le regarder. La fumée des premiers feux s'élevait par-dessus les pointes des tipis. Le peuple vaquait à ses activités matinales. Les chiens aboyaient. Les garçons emmenaient les chevaux dans la prairie. Je percevais de loin les rires et les sons étouffés de la vie et il me vint subitement à l'esprit, oui, pour la première fois, que j'avais ici une place. Je me trouvais ici chez moi. C'était bien sûr tout à fait différent de ce que j'avais connu auparavant, mais c'était une peinture d'une extrême beauté. Et en même temps, contre toute attente, je me trouvais envahie d'un puissant sentiment de paix et de satisfaction. Et je me dis, quelle chance extraordinaire! Oui, malgré l'étrangeté sauvage et les difficultés de ce nouveau monde, c'était là quelque chose d'une douceur indicible. En ce matin, je m'émerveillais de la perfection et de l'ingéniosité avec laquelle les natifs avaient embrassé la terre, avaient trouvé leur place dans la nature, tout comme les herbes du printemps, tout comme la prairie qu'ils connaissaient si bien. On ne peut s'empêcher, en effet, que homme et nature étaient partie intégrante du même tableau. Alors, c'est le bonheur de... le bonheur du voyage de noces, disons, qui est révélé ainsi à May Dodd. Et c'est la présence permanente de la nature qui va lui permettre désormais de s'intégrer dans son village. Les chasses de Little Wolf se sont toutes révélées un succès. Nous avons tué, dépouillé et mangé des antilopes, des wapitis, des cerfs et toutes sortes de petits gibiers, des grouses, des canards, des lapins. L'existence des Amérindiens ici semble constamment osciller entre abondance et disette. Il y a des jours où, bien sûr, il n'y a plus grand-chose à manger d'autre que les herbes et les légumes. Mais il y a des jours où, lorsque les hommes reviennent de la chasse, c'est l'abondance parce qu'ils ont bien chassé, oui. Alors, les femmes préparent les repas devant les feux. Moi, pendant mon voyage de noces, j'ai appris, en effet, comment manipuler les ustensiles de cuisine et puis, surtout, tout ce qui nous entoure pour donner du goût au plat. Les oignons sauvages, les pissenlits, les morilles, tout ce qu'on trouve, en effet, dans les prés ou aux abords des rivières. C'est ce que nous aussi, en ville, nous retrouvions dans la campagne de l'Illinois. Mais ici, c'est vraiment tout à fait dans notre environnement. Certaines viandes, on les laisse faisander dans le bois de peuplier. D'autres, on les consomme immédiatement une fois qu'elles ont été dépouillées et apprêtées. D'ailleurs, apprêter les peaux, c'est aussi une activité très importante puisque ces peaux sont transformées dans tout ce qui nous est utile dans la vie quotidienne. Les vêtements, les tentes, les appareils qui servent à transporter tout ce qui est ensuite sur les dos des chevaux, les selles même. Il y a tout un travail du cuir qui est couramment pratiqué par les femmes et par les hommes, puisque contrairement à ce que je disais autrefois, eh bien les hommes participent véritablement aux travaux en particulier aux travaux du cuir et de l'aménagement intérieur des habitats. Pendant mon voyage de noces, j'ai aussi découvert que l'eau faisait partie de l'entourage. Et oui, l'eau, par exemple, dans laquelle mon mari m'a invité à me glisser dans une rivière alors que nous étions partis depuis quelques jours. Les Indiens nagent de façon assez primitive, mais tout de même, ils ne font aucun bruit et ils se glissent dans l'eau sans nos mouvements plus sophistiqués. Je lui ai enseigné, en fait, précisément nos mouvements européens. Je lui ai d'abord montré le crawl. Il l'a appris très rapidement, parce qu'il est très athlétique. Puis la brasse. Et la brasse, il a trouvé ça très drôle. Et nous nous sommes mis à rire comme, eh bien oui, comme des jeunes mariés. En me glissant dans l'eau avec lui, j'avais vraiment brisé la glace. Alors, j'ai passé les bras autour de son cou, de sa taille. Il a été surpris, mais cette étreinte de face, cette étreinte dans l'eau, ça a semblé bien lui plaire. Et nous avons poursuivi ces attouchements tout à fait agréables. Le sujet est bien inconvenant, mais je pense tout de même que c'est intéressant de l'aborder de la sorte. Nous avons véritablement développé, mon époux et moi, une intimité. Une intimité que nous allons développer encore, bien sûr. L'eau, oui, l'eau nous a rapprochés, mais maintenant que nous avons développé une vraie relation de couple, même en retournant au village, nous allons la conserver. Eh bien, on va être obligé de s'arrêter sur cette notation positive et optimiste de May Dodd. Oui, elle va se faire à sa vie au village. Elle va apprécier la vie avec les Indiens, avec ses camarades qui, elles aussi, ont des époux amérindiens. Mais malheureusement, ça vous vous en doutez, l'histoire finira mal puisque les populations indiennes qui entourent Little Wolf vont, comme bien d'autres, se faire attaquer et sombrement attaquer et massacrer par les armées américaines qui sont venues tout simplement protéger les chercheurs d'or qui, bien sûr, font, vous savez, la ruée vers l'or. Alors, la ruée vers l'or, ce n'était pas une ruée, c'était des ruées vers l'or. Mais chaque fois, c'est au détriment des Indiens des plaines. Alors, désolé que l'histoire finisse mal. On vous retrouvera pour autre chose la semaine prochaine. Au revoir, à bientôt.